Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes que sont Emmanuel Faux, qui aura la parole dans quelques minutes, mais d'abord Fabrice Lundy. Rebonjour Fabrice.
Rebonjour Bernard.
En attendant, effectivement, l'arrivée des vaccins contre le Covid, donc le Pfizer, puis le Moderna, sans doute d'autres dans les prochaines semaines, qu'est-ce que l'annonce hier soir de Moderna révèle ?
Alors d'abord que c'est une biotech, comme la semaine dernière, BioNTech, donc une petite structure jeune qui fait parler d'elle. Il y a 10 ans, Moderna, il n'y avait personne, pas un salarié, quand le français Stéphane Bancel en a pris les rênes, alors qu'il venait de France où il dirigeait Biomérieux. Ouais. Et c'est l'économiste Nicolas Bouzou qui soulignait hier, ce qui va nous sortir de cette crise, c'est l'innovation. C'est la Startup Nation, américaine en l'occurrence. Hein. Et c'est vrai que Moderna a su se distinguer avec sa méthode qui s'apparente davantage à un travail informatique avec le réencodage de l'ADN. Et il y en a un qui a bien aimé ce côté innovant, un petit peu frondeur. C'est le président sortant, Donald Trump. Le 2 mars dernier, lors d'une réunion de crise, il a tourné en ridicule les grands labos. « Ah, vous me parlez en années et lui me parle en moi », en se tournant vers Stéphane Bancel. C'est ce que raconte Solveig Godeluc dans Les Échos. Alors, parler de la revanche des petits sur les gros labos, sur Big Pharma, ce serait quand même aller vite en besogne. Alors oui, il y a une agilité dans ces petites structures, mais Moderna, par exemple, a noué des partenariats avec des géants comme AstraZeneca ou Merck.
Oui.
Ce que nous rappelait d'ailleurs ce matin le président de France Biotech sur Radio Classique. Et c'est là le secret. Dans la santé, comme dans l'industrie, chez nous, par exemple, en France, s'entourer d'un réseau de start-up, c'est l'une des armes des grosses boîtes comme des plus petites ETI, PME, dans leur effort d'innovation, dans leur virage digital. Et tout ceci est de nature à faire naître un écosystème. Finalement, c'est tout le monde ensemble. Vieilles boîtes, jeunes pousses, tous unis. Et on le voit sur ce terrain du vaccin contre le Covid, parce que Moderna ne sera pas seule. Elle ne le pourrait pas d'ailleurs pour fournir des doses à des milliards de terriens.
L'autre enseignement, c'est que la vie va pouvoir reprendre, en tout cas on l'espère, on touche du bois, la vie sociale, la vie économique aussi.
Oui, le cauchemar va s'arrêter, on l'espère, à court ou moyen terme. Les marchés, une nouvelle fois, ont applaudi, hein, des deux côtés de l'Atlantique, en Asie, encore ce matin. Un automne comme celui qu'on vit, et l'hiver aussi qui s'annonce, devraient être les premiers et les derniers. Parce que il y a une lumière au bout du tunnel. Parce que c'est la vaccination de grande ampleur qui sauvera l'économie. Plus que les aides. Des aides, il ne peut plus y en avoir à l'infini. Parce que des magasins, ils doivent rester ouverts sans qu'on prenne rendez-vous. Une ville, ça bouge. Ça ne peut pas rester figé ad vitam aeternam. Parce qu'on ne peut pas s'habituer à ces mouvements de stop and go. Une fois on confine, alors au départ tout le monde obéit, c'était le beau printemps. Puis on déconfine, c'est le grand n'importe quoi. Alors on reconfine en automne et là plus personne n'écoute qu'on fait les fêtes sauvages à Joinville-le-Pont ailleurs. Parce que des fêtes comme ça, il y en a partout. La fin du cauchemar administratif aussi, quand même. Quelqu'un en haut lieu a quand même décidé que gratter un ticket de Keno, c'est essentiel, et que les livres et les cadeaux de Noël à un mois des fêtes, c'est non essentiel. Le vaccin, c'est ça aussi, c'est la fin des incohérences. Dernier exemple, pardon, mais hier, Public Sénat, hier, on demande au ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, si on pourra acheter des sapins de Noël. Que dit-il ? Ah ben, un décret va être publié dans les tout prochains jours, mais on attend les derniers arbitrages, enfin des arbitrages sur les sapins de Noël. C'est étrangler le journaliste. Vous imaginez Bernard, la réunion à Bercy au ministère de l'Agriculture avec 5 technos comme ça qui sont là. Bon, alors on va réfléchir,
mais
des arbitrages.
Final, ça vient d'être tranché puisque Julien de Normandie a dit que les sapins de Noël seront autorisés à la vente à partir de ce vendredi.
Comme quoi ça peut aller vite parfois.
Voilà. Donc comme quoi, quand on veut, c'est effectivement possible. Le vaccin, bien entendu, et le Covid, on en reparle tout à l'heure avec le camarade des Échos juste avant 8h.
Mais d'abord, qui a rencontré Stéphane Bancel.
Absolument,
c'est ça qui est bien.
Exactement. Ouais. Mais d'abord, l'Afrique et la pandémie. Avec vous, donc, Emmanuel Faux. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour, Bernard.
Emmanuel, on sait que le continent noir a été relativement épargné par la première vague du printemps. Mais aujourd'hui, les derniers chiffres laissent penser que certains pays du nord de l'Afrique et de l'Est aussi, pourquoi pas, pourraient être confrontés à une flambée d'automne de la maladie.
Bah oui, parce que depuis le début de l'épidémie, l'Afrique avait été la bonne surprise de la planète, avec un nombre de cas relativement limité, grâce à des décisions de fermeture des frontières assez précoces, et aussi une bonne pratique du dépistage qui ont permis aux hôpitaux de tenir le coup.
Oui.
Certains évoquent aussi le facteur jeunesse, évidemment, de la population africaine. Et résultat, jusqu'à présent, alors que le continent africain représente 17% de la population mondiale, eh bien, on y compte que 4 4% à peine du total des cas de Covid-19 recensés dans le monde. Et le nombre de décès a atteint ce week-end 47 000 pour toute l'Afrique, ce qui est en dessous du bilan du Royaume-Uni. Il faut donc comprendre que globalement, les Africains partent de très bas. Et ce que nous vivons en Europe comme une deuxième vague pourrait être en fait la vraie première vague pour eux. Avec, c'est vrai, des signaux d'alerte en Égypte et dans les pays du Maghreb notamment. Ces dernières semaines, c'est au Maroc qu'on a observé l'accélération la plus forte, avec un envol du nombre de nouveaux cas qui est de l'ordre de 5000 en moyenne par jour, à tel point d'ailleurs que le Royaume mise beaucoup sur son partenariat avec le laboratoire chinois Sinopharm pour obtenir au plus vite son propre vaccin. Alors cela dit, si l'Afrique du Sud concentre toujours 40% des malades du continent, eh bien par contraste, et pour vous dire qu'il y a encore des coins de l'Afrique où le coronavirus est non grata, des pays comme l'Érythrée ou les Seychelles n'ont enregistré à ce jour aucun décès, zéro. Et au Burundi, un petit pays de 11 millions d'habitants, eh bien on compte officiellement un seul mort depuis le début de la pandémie.
Alors il y a aussi, et il faut en parler, le cas particulier du Kenya qui, après avoir desserré l'étau Covid, envisage maintenant un éventuel reconfinement de ses habitants.
Oui, le Kenya, si cher à Joseph Kessel, a pêché par optimisme en rouvrant récemment ses bars, en retardant l'heure du couvre-feu et en autorisant de nouveau la vente d'alcool. Le pays n'en pouvait plus du confinement de ces dernières semaines et rêvait de reprendre une vie normale. Sauf que les chiffres récents ont sonné comme un brusque rappel à la réalité, avec un redémarrage soudain de la maladie et un rebond du taux de positivité, qui est passé en deux mois de 4 à 16%. Du coup, les autorités kényanes s'interrogent parce que le système hospitalier est en train de craquer et certains malades peuvent être renvoyés chez eux s'ils n'ont pas de symptômes jugés très graves. Il y a 15 jours, le président du Kenya s'est adressé au pays en laissant la porte ouverte à des reconfinements locaux, notamment dans les deux grandes métropoles les plus touchées que sont Mombasa et la capitale Nairobi. Problème, c'est que le quart de l'économie kényane repose sur ces deux villes et un nouveau coup de frein à l'activité pourrait avoir des conséquences dramatiques, y compris en termes de recrudescence de la criminalité. Comme ailleurs, le dilemme est terrible, parce que comme ailleurs, il faut arbitrer entre un risque d'aggravation de la crise sanitaire et un risque d'aggravation de la crise sociale.
Merci beaucoup Emmanuel Faux et Fabrice Lundy aussi pour ce double éclairage Covid ce mardi matin sur Radio Classique. Emmanuel, on vous retrouve très bientôt à l'antenne, il est 7h47 exactement. Bienvenue si vous ouvrez un œil, vous êtes sur Radio Classique et dans un instant avec Renaud Blanc, maître d'œuvre du journal imprévisible Barack Obama sur France 2 ce soir, interviewé par François Bunel à l'occasion de la sortie du premier tome de ses mémoires.